Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La prière est pour l'homme un des plus grands biens, car elle est la lumière de l'homme, elle est la nourriture de l'homme, elle est la vie de l'homme. Comment cela peut-il se comprendre? Peut-on comprendre cela? Eh bien, parce que la prière nous met en rapport avec Dieu, Dieu qui est, lui, la lumière, Dieu qui est la nourriture, Dieu qui est la vie, la source de toute vie. De nous-mêmes, nous ne savons pas prier comme il convient, comme il se doit, comme il convient à Dieu. Et alors nous devons nous adresser à notre Seigneur Jésus-Christ, comme l'ont fait les apôtres en son temps, et lui dire, eh bien Seigneur, apprenez-nous, enseignez-nous à prier. Eh bien, c'est lui seul qui peut le faire. Et comment? Eh bien, en nous envoyant son esprit de grâce, son esprit de prière, son esprit qui prend plaisir à aider les faibles, à fortifier notre faiblesse. Eh bien, sur cette terre, c'est dans la Sainte Église que réside ce divin esprit. Vous le savez, il est descendu le jour de la Pentecôte sur les apôtres, sous la forme de langue de feu, et à partir de ce jour, ce Saint-Esprit demeure dans la Sainte Église. Le Saint-Esprit est le principe des mouvements de l'Église. Il lui inspire les prières, les cantiques, les louanges, les soupirs qu'il faut adresser à Dieu. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la liturgie. La liturgie est ce culte officiel, ce culte public que l'Église catholique rend continuellement à Dieu. Et c'est dans ce culte seul que Dieu trouve son hommage, puisque c'est lui-même qui a enseigné à l'Église les prières les plus excellentes que l'on peut adresser à Dieu. Et pour cela, vous savez que la liturgie s'inspire des paroles même du Saint-Esprit, qui sont dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Ce que Dieu nous a dicté par ses secrétaires, par ses instruments que sont, ont été Moïse, ont été les prophètes, et tous ceux qui ont été les auteurs de ces livres, David, et puis les apôtres, les disciples. La prière de l'Église est donc la plus agréable à l'oreille et au cœur de Dieu. Et aussi, la prière de l'Église est la plus puissante, la plus efficace pour toucher Dieu. Heureux est celui qui prie avec l'Église, l'Église qui est l'épouse de Jésus-Christ. Heureux celui qui sait s'associer, voilà, à cette prière de l'Église, à cette prière que l'épouse adresse à Jésus-Christ, son époux, à Dieu le Père. Oui, associons nos vœux particuliers à ceux de cette épouse chérie de notre Seigneur et qui est toujours exaucée par notre Seigneur, bien sûr. Lorsque notre Seigneur nous a appris cette prière de notre Père aux apôtres et donc par eux à nous, il nous dit, quand vous priez, dites ceci, notre Père et non pas mon Père. Donnez-nous, pardonnez-nous, délivrez-nous, et non pas donnez-moi, ou pardonnez-moi, ou délivrez-moi. Et pourquoi cela? Eh bien, pour nous indiquer que l'Église ne prie pas seule, les peuples lui font compagnie. Et ainsi les peuples se nourrissent avec délice de la manne qui est cachée sous les paroles et les mystères de la divine liturgie. Ainsi, les fidèles, par cette union étroite avec la liturgie, étaient initiés à ce cycle divin des mystères de l'année chrétienne. Si la prière faite en union avec l'Église est la lumière de l'intelligence, elle est aussi pour le cœur le foyer de la divine charité. Il faut que cette prière liturgique ne soit pas seulement extérieure. Et lorsque vous chantez le Kyrie ou le Credo ou le Gloria ou tout autre, il ne faut pas que ce soit que du bout des lèvres. Il faudrait que ce soit des sentiments qui sortent de votre cœur, que votre cœur adhère à ces chants liturgiques, à cette belle prière liturgique. Il faut s'y associer, c'est-à-dire qu'en s'y associant, on s'unit à l'Église qui adresse à Dieu le culte par excellence. Oui. Mais si on reste là, passif, sans répondre, sans rien du tout, on n'est pas associé à l'Église. On est là, on est comme un pot de fleurs, vous voyez, qui est là pour garnir, c'est tout. Mais on ne participe pas. Tandis que, c'est pourquoi l'Église tient cette liturgie pour nous unir à Sainte Église, à l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ, qui adresse à Dieu ce culte, cette adoration, ces hommages, la majesté qui lui est due. Alors il faut que nous y adhérions, voilà, pour compléter cette harmonie, voilà, cette prière qui charme Dieu. La prière liturgique est incontestablement supérieure à la prière individuelle. Oui. Bien sûr, elle ne supprime pas la valeur de la prière individuelle, mais elle est incontestablement supérieure. Les saints docteurs des premiers siècles et les pères du désert, où puisaient-ils la lumière et la chaleur qui étaient en eux et qu'ils nous ont laissés dans leurs écrits et dans leurs œuvres? Eh bien, c'est par ces longues heures qu'ils ont passé à chanter les psaumes et les cantiques dont est remplie la Sainte Liturgie. Il y a dans la liturgie une richesse inépuisable. Et par cette richesse, eh bien, le Saint-Esprit va féconder nos âmes. La liturgie, eh bien, elle tourne tout autour de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle se rapporte tout à notre Seigneur Jésus-Christ, d'ailleurs comme l'Ancien Testament, et tout en annonce, en préparation de notre Seigneur, qui est lui le centre de l'histoire du monde, le centre de tout. Eh bien, dans la liturgie aussi, c'est Jésus-Christ qui est manifesté, et ses mystères dans l'Église et dans l'âme des fidèles. L'Église renouvelle chaque année sa jeunesse, parce qu'au moyen de ce cycle liturgique, elle est visitée par son époux. Chaque année, elle revoit l'enfant Jésus dans la crèche, notre Seigneur jeûnant sur la montagne, notre Seigneur s'offrant sur la croix, ressuscitant du sépulcre, notre Seigneur fondant son Église, instituant les sacrements, remontant à la droite de son Père, envoyant le Saint-Esprit aux hommes. Chaque année, l'Esprit de Dieu reprend possession de sa bien-aimée et lui assure la lumière et la charité. Eh bien, ce que l'année liturgique opère dans l'Église en général, elle le répète dans l'âme de chaque fidèle, mais les fidèles attentifs à recueillir le don de Dieu. Et tout au long de l'année liturgique, le chrétien trouve les moyens de cette vie surnaturelle. Le chrétien qui s'applique à vivre avec la liturgie sera préservé de la tiédeur. Il y trouvera la lumière, la nourriture pour fortifier sa foi, pour grandir toujours dans les vertus chrétiennes et particulièrement la vertu de charité. Parce que la liturgie va nous faire contempler Jésus. Tout au long de cette année ecclésiastique, Jésus qui est le modèle présenté. Le modèle, c'est Dieu vivant parmi nous. Alors invitons la très sainte Vierge Marie à nous accompagner tout au long de cette nouvelle année qui commence aujourd'hui. Réveillons-nous, comme dit saint Paul. Voyez. Et demandons à Notre-Dame d'attirer notre attention sur les mystères de son divin Fils que l'Église va nous faire contempler, pour nous faire imiter, qu'elle va essayer de faire pénétrer toujours davantage en nous, pour nous imprégner. Oui. Notre saint Paul termine son épître aujourd'hui en disant « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ ». Eh bien, c'est ça, se revêtir de notre Seigneur, c'est se revêtir de ses vertus. C'est que Jésus-Christ vive en nous et qu'en nous transparaissent les vertus de notre Seigneur Jésus-Christ. Et demandons aussi à la très sainte Vierge Marie qu'elle adresse une prière fervente à son cher époux, le Saint-Esprit, pour nous obtenir les dons, afin de féconder nos âmes dans lesquelles Dieu veut trouver les fruits. Chaque année est un cadeau que le bon Dieu nous fait. Alors, entrons-y avec courage, avec générosité, avec grand désir. Voilà. Et puis, aimons cette liturgie, qui est le moyen par lequel l'Église va nous faire imiter notre Seigneur Jésus-Christ, va nous sanctifier. C'est un moyen par excellence. Et qui, tout d'abord, c'est le moyen d'adresser à Dieu vraiment la prière, le culte, la seule adoration qui lui est due. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La vérité fondamentale que notre Seigneur veut nous enseigner dans ce passage de l'Évangile est celle-ci. Ne vous rendez pas esclaves des richesses. Ne vous préoccupez pas trop des choses de ce monde. Abandonnez-vous à la divine providence. Dieu est un bon Père. Il vous aime et ne vous laissera manquer de rien. Avant tout, songez au salut de votre âme et appliquez-vous à gagner le ciel. C'est là le principal, l'unique nécessaire. Tout le reste est secondaire. Voilà un peu l'enseignement que nous pouvons tirer de l'Évangile de ce jour. Nous voyons avec quelle touchante sollicitude notre Seigneur s'applique à nous faire comprendre combien Dieu nous aime. Est-ce que nous pensons, au fond, que Dieu nous aime? Et combien aussi notre Seigneur veut nous enseigner. Il nous importe de nous confier à sa divine providence. L'Évangile est très clair. Les exemples sont aussi lumineux. Et c'est la réalité qui est toujours ainsi. Aussi bien, d'un côté, il n'y a pas de paix, de repos possible pour nous si nous ne mettons pas notre appui en la divine providence. Voyez, quelqu'un qui ne se confie qu'en lui-même, qu'au bien d'ici-bas, n'a jamais de paix. Il est toujours inquiet. Celui qui se confie en Dieu acquiert cette paix. Il ne se repose pas sur ses propres forces ou sur ses moyens, mais il se repose sur Dieu qui est un bon Père. D'un autre côté, comment nous inquiéter si nous avons foi en la divine providence? Le problème, c'est que, mes bien chers fidèles, nous n'avons pas beaucoup de foi. Peut-être même pas la foi grande comme un grain de sénévé. Ah, si nous pouvions avoir plus de foi, et si nous pouvions vivre de la foi, ce serait bien différent. Voyez un petit peu, je dis un peu parce que tout, on ne pourra pas considérer ce que la providence a fait pour nous. Voyons un peu ce que la providence de Dieu a fait dans la création et dans le gouvernement du monde. Avant d'avoir créé l'homme, Dieu a préparé un palais magnifique. Il l'a fait avant d'avoir créé l'homme, dans lequel il y avait tout ce que l'homme avait besoin. Puis ensuite, il a créé l'homme. Et comment a-t-il créé l'homme? Non pas comme les animaux. Il a créé l'homme à sa propre image, en lui donnant les plus nobles facultés, les facultés que l'on retrouve en Dieu, l'intelligence, la volonté. Et ensuite, il l'a aussi comblé de bien, toutes les vertus qui ornaient l'âme de nos premiers parents. Et en fait, tout ce qui existe au ciel et sur la terre, tout cela, Dieu l'a fait pour l'homme. Tout appartient à Dieu, tout cela, Dieu l'a fait pour l'homme. Non seulement Dieu a créé tout le monde, mais il le conserve et le gouverne. S'il nous avait demandé, ou s'il avait demandé à l'homme, maintenant j'ai tout créé, voilà, vous avez tout, entretenez tout cela. On serait déjà longtemps dépassé et perdu. Quand on pense, par exemple, à la peine qu'il faut déjà pour entretenir son jardin potager, ou les paysans qui passent toute leur vie pour leur petit bout de terre, pour l'entretenir, le cultiver. Et s'il fallait entretenir toute la création, on serait perdu. Eh bien, Dieu gouverne tout cela. Dieu fait pousser. S'occupe des oiseaux, il y a l'ordre, l'harmonie entre eux. On n'a pas besoin de tout s'occuper de tout cela. Dieu, donc, le conserve et le gouverne. Et avec la même infinie sagesse et dans un ordre admirable. La sagesse de Dieu. Qu'est-ce que la sagesse de Dieu? Et qu'est-ce la sagesse de l'homme à côté de celle de Dieu? On ne finit pas de découvrir la sagesse de Dieu dans les merveilles de la création. Dieu gouverne si bien que rien au ciel et sur la terre n'arrive sans l'ordre ou la permission de Dieu. Rien. Même un cataclysme, même un tremblement de terre n'arrive pas sans la permission ou la volonté de Dieu. Vous voyez quelle confiance cela peut nous donner en Dieu. Rien ne lui échappe. Il est maître absolu de tout. Il sait tout, il voit tout et rien ne se passe sans qu'il le décide ou qu'il le permette. Rien. Même pas le démon. Il faut savoir aussi que tous les événements d'ici-bas, les révolutions des empires, les calamités, les moindres accidents, tout est prévu, tout est réglé par la divine providence. Tout est prévu et réglé par la divine providence. Pas un seul passereau, pas un seul cheveu de notre tête ne tombe sans la permission de Dieu. Que de soucis inutiles nous nous faisons. Et Dieu, après avoir fait l'homme, a pourvu en bon père à tous ses besoins pour l'entretien de sa vie. Et il veut que, comme des enfants bien-aimés, nous nous en rapportions pleinement à lui. Le Seigneur, nous dit saint Augustin, veut que nous rappelions qu'en nous créant et en nous composant d'une âme et d'un corps, Dieu nous a donné beaucoup plus que la nourriture et le vêtement. Notre corps vaut beaucoup plus que la nourriture et le vêtement. Eh bien, Dieu nous a donné ce corps, cette âme. Ne nous donnant-il pas ce qu'il est nécessaire pour entretenir ce corps et vêtir ce corps? Voyez par exemple ce que Dieu fit pour ce peuple hébreu qu'il fit sortir d'Égypte et qu'il l'emmena dans le désert. Il fit sortir l'eau du rocher. Non pas qu'il y avait une source derrière, c'était un rocher, bel et bien un rocher, et l'eau sortit de ce rocher. Il fit tomber la manne tous les matins, pendant des années et des années. Il fait venir l'écaille. Il fit traverser la mer Rouge, à pied sec. Il engloutit les ennemis, les Égyptiens qui les poursuivaient. L'homme était incapable de faire cela. Dieu l'a fait pour son peuple. Voyez ce qu'a fait Dieu pour Élie, qui fuyait la colère de Jézabel. Un ange du ciel est venu lui porter à manger et à boire, alors qu'il était là, attendant la mort, étant épuisé. Voyez ce que Dieu a fait pour Daniel dans la fosse aux lions. Il emporta Habakkouk, qui portait à manger à ses ouvriers, jusqu'à la fosse aux lions, par un ange, par les cheveux, il l'emmena à la fosse aux lions et lui donna à manger. Voyez ce que fit Dieu pour Saint-Pierre, qui était prisonnier par Hérode, et très bien gardé, attaché aux gardes par des menottes, en plus des gardes devant la porte de la prison, et d'autres gardes encore. Dieu envoya un ange qui détacha Saint-Pierre des liens et il le fit sortir de la prison sans que personne ne pût rien faire contre. Et tant d'autres exemples de ce que Dieu a fait pour ses créatures. Et puis, la providence de Dieu dans l'ordre de notre rédemption. Nous avons vu dans l'ordre de la création et on pourrait dire encore bien plus. Ça devrait suffire pour nous donner une confiance totale en Dieu. Et dans l'ordre de la rédemption, Dieu a tant aimé les hommes. Oui, Dieu a tant aimé les hommes qu'il lui a donné son Fils unique. Non pas des anges, mais son Fils unique. Celui en qui il trouve toutes ses complaisances, son Fils chéri. Voilà ce qu'a donné Dieu aux hommes. Et à un autre endroit de l'Évangile, notre Seigneur dit, « Ne craignez pas, petit troupeau, car il a plu à mon Père de vous donner le royaume des cieux. » Il a plu à mon Père de vous donner le royaume des cieux. Que faut-il encore pour nous faire avoir une plus grande confiance en Dieu, une confiance totale? Dieu a donné son Fils unique pour nous, qui nous sommes révoltés contre lui, qui étions devenus ses ennemis, qui l'avons offensé, et de quelle façon? Par nos péchés. Voilà comment Dieu se venge, en nous comblant de bienfaits, en nous envoyant son Fils. L'homme avait mérité d'être chassé du paradis terrestre par son péché originel. Et la terre était devenue pour lui pleine d'épines, de travaux et de douleurs. Eh bien, Dieu, cédant à son amour, lui a fait un autre jardin délicieux, arrosé du sang de son Fils. Et ce jardin délicieux, arrosé du sang de son Fils, c'est l'Église. L'Église, où nous trouvons tous les trésors que notre Seigneur Jésus-Christ nous a mérités, les trésors des sacrements, qui soignent nos âmes, qui leur redonnent la vie, qui préparent nos âmes à paraître, et qui conduit nos âmes dans la vie éternelle, qui nous conduit nos âmes à la patrie céleste, où est vraiment notre vraie patrie. Voilà jusqu'où la providence de Dieu a aimé sa pauvre créature coupable. Et après ça, nous n'avons pas confiance en elle. Autrefois, nos ancêtres aimaient à mettre des crucifix un peu partout. Non pas que c'était une image repoussante, mais c'était chaque fois un rappel de l'amour de Dieu pour nous. Et nos ancêtres, quand ils partaient au champ avec le piochard sur l'épaule et qu'ils rencontraient une croix, ils s'arrêtaient et remerciaient Dieu, faisaient une petite prière devant ses calvaires, devant ses crucifix, le remerciant de toutes ces merveilles, de toutes ces miséricordes, et spécialement de cette rédemption. Oh, si nous réfléchissions, si nous méditions davantage ce qu'est Dieu et ce qu'il a fait pour nous, et ce qu'il fait continuellement pour nous, oui, nous serions peut-être moins médiocres. Relisons cet évangile, méditons ce passage de l'évangile qui est merveilleux. Comment notre Seigneur pouvait s'exprimer mieux pour nous inviter à la confiance en son Père, la confiance en Dieu? Mais peut-être que vous allez me dire, si Dieu nous aime tant, pourquoi sur la terre nous sommes-nous sujets à tant de maux? Il y a des maladies, des accidents, des pertes, des persécutions, des afflictions, des épreuves de toutes sortes. Et c'est vrai, on ne peut pas le nier. Eh bien, tout cela est prévu et permis par la divine providence. Qui sommes-nous pour pouvoir juger des plans de Dieu? Nous qui avons encore bien des choses que nous ne connaissons pas, même dans les choses naturelles, que les savants n'ont pas fini de découvrir. Comment voulons-nous sonder les desseins de Dieu? Mais il ne faut pas oublier qu'il veut toujours notre plus grand bien. On dit le bon Dieu, c'est un Dieu bon qui veut notre bien, qui veut notre profit spirituel. Et s'il permet les épreuves, c'est pour plusieurs raisons que l'on peut connaître quelques-unes. Par exemple, pour nous détacher des biens de la terre. Comme on peut les perdre si facilement, comme c'est si difficile à les acquérir, et comme ils se gâtent aussi si facilement. Car si nous trouvions ici-bas que des jouissances et du bonheur, nous ne voudrions pas autre chose, et nous oublierions les biens célestes pour lesquels nous avons été créés. Nous oublierions le bon Dieu. Et donc c'est une grâce que nous ayons ces épreuves, ces difficultés. Aussi, une autre raison, si Dieu permet ces maux dans une vue de miséricorde, ces maux, il les veut pour forcer les pécheurs à se convertir et les imparfaits à sortir de leur tiédeur. Et c'est vrai, c'est la réalité. Combien de fois, lorsque nous sommes accablés de maux, nous nous remettons à prier. Et quand tout va bien, alors on oublie de prier. On néglige tout le côté spirituel, on néglige Dieu, on néglige notre âme. Autre raison, eh bien, c'est pour nous sanctifier, pour nous faire pratiquer les vertus chrétiennes, pour nous faire mieux imiter notre Seigneur Jésus-Christ. Ne l'oublions pas, notre Seigneur a choisi sa vie. Il n'a pas subi sa vie, il a choisi sa vie. Il a prévu d'avance la vie qu'il voulait. Eh bien, c'était une vie de souffrance, une vie d'épreuve, une vie de difficulté. Et notre Seigneur, eh bien, nous fait un honneur, en quelque sorte, d'imiter sa vie et de mériter la couronne éternelle. Et d'ailleurs, Dieu proportionne toujours ses grâces aux épreuves qu'il nous envoie. Alors, il faut que nous nous abandonnions à cette providence divine. Comme les petits-enfants se confient en leurs parents. Est-ce que le petit-enfant va-t-il se méfier de la bouteille que la maman va lui donner? Il va dire, oh, je vais encore d'abord voir ce qu'il y a dedans avant. Mais non, il ne s'occupe pas de ça. Il sait que sa maman l'aime et qu'il lui donnera quelque chose de bon, quelque chose qui lui sera utile, nécessaire et profitable. Voilà ce qu'il nous faut avoir vis-à-vis du bon Dieu. Plus les petits-enfants obéissent et aiment leurs parents, plus ils seront aimés et soignés par leurs parents, gâtés par leurs parents. Ils le savent. De même, pourquoi ne ferions-nous pas avec le bon Dieu cela? Et on voit dans l'histoire du peuple hébreu, lorsque le peuple hébreu observait les commandements de Dieu, eh bien, ils étaient chéris, tout leur réussissait, tout allait pour le mieux. Et lorsqu'ils étaient tournés de la loi de Dieu, eh bien, ils avaient toutes les misères. Ayons donc un amour ardent et une reconnaissance persévérante envers Dieu. Ne murmurons pas, ne blasphémons pas en disant « Qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu pour qu'il nous arrive telle chose ?» Ou « Dieu n'est pas bon puisqu'il arrive tellement de mal sur la terre. » C'est un blasphème que de dire cela. On n'a rien compris, on ne comprend pas Dieu. On n'a pas la sagesse. Ayons une confiance entière et un abandon filial pour tout ce qui se rapporte à notre corps et à notre âme. Bien sûr, il ne faut pas tomber à l'excès en disant, bon, eh bien, on attend que tout vienne sur la table. Non, le bon Dieu nous a donné une intelligence, des facultés, nous devons les utiliser, nous devons faire tout ce que nous pouvons pour notre sanctification et pour aussi la conservation de notre vie. Mais il ne faut pas porter un souci exagéré, une inquiétude exagérée par rapport à notre prochain, en faisant à nos frères tout le bien possible, soit pour les besoins de leur corps, soit pour le salut de leur âme. Si le bon Dieu donne des moyens, des facultés plus à certains, c'est pour qu'ils les fassent profiter aux autres et pas que ce soit que pour leur profit personnel. Voilà l'harmonie. C'est comme dans un corps humain. Toutes les parties du corps travaillent pour le bien commun du corps. Les mains ne vont pas faire que ce qui leur plaise, ni les pieds. Tout est uni, il y a une harmonie. Alors, mes bien chers fidèles, méditons un peu, essayons de connaître davantage Dieu et vivons de notre foi. Alors, sachons recevoir tout ce qui nous arrive de la main de Dieu. Les bons côtés, les bons moments comme les mauvais moments. Voyez le saint homme Job. Si nous recevons les bienfaits de Dieu, pourquoi ne recevrions-nous pas les maux? Comportons-nous vis-à-vis du bon Dieu comme des petits enfants, confiants, aimants. Et ainsi, le bon Dieu ne peut pas nous abandonner. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La troisième arme que nous avons après la défiance de nous-mêmes et la confiance en Dieu pour lutter contre cet ennemi intérieur, pour remporter la victoire sur nous-mêmes, pour devenir maître de nous-mêmes, eh bien, c'est le bon usage des facultés que le bon Dieu nous a données. Le bon Dieu nous a donné ces deux facultés à notre âme que sont l'intelligence et la volonté. Et Dieu veut que nous en usions avec sagesse. La dernière fois, nous avions vu que ces facultés ont des ennemis. Le premier ennemi contre l'intelligence, eh bien, c'est l'ignorance. Nous avions vu que l'ignorance cherche à obscurcir l'intelligence afin de l'empêcher d'atteindre son objet, qui est la vérité. Afin de détourner l'intelligence d'atteindre la vérité, qu'elle reste dans l'erreur. Et nous avions vu qu'il y a des remèdes pour cela. Le premier remède, c'est l'oraison. Demander au Saint-Esprit la lumière pour comprendre la vérité, pour atteindre, pour découvrir, pour connaître les vérités de Dieu. Connaître toute vérité qui se résume en notre Seigneur Jésus-Christ qui se dit lui-même « Je suis la vérité ». Aussi, l'oraison mentale qui nous permet d'approfondir, de ne pas rester superficiel, d'approfondir ces vérités, de les faire nôtres. Et le deuxième remède, bien, c'est l'application de notre esprit à examiner soigneusement toute chose, à ne pas tout de suite porter un jugement qui serait trop superficiel, à réfléchir mûrement sur ce qui nous arrive, voyez, sur toutes les choses, à être profond. Eh bien, aujourd'hui, voyons un peu ce deuxième ennemi de notre intelligence et contre lequel nous devons nous tenir en garde. Eh bien, ce défaut, c'est la curiosité. C'est un vice qui va remplir notre esprit d'une multitude de pensées, des pensées vaines, des pensées inutiles, et peut-être même des pensées coupables. Eh bien, ce vice va être un obstacle à notre avancement spirituel. Certes, nous avons en nous cette tendance à vouloir tout entendre, à vouloir tout voir, à vouloir tout connaître. Eh bien, c'est un défaut, c'est un ennemi de notre intelligence. Elle accapare notre intelligence de choses vaines et inutiles, et l'empêche notre intelligence d'accéder, voyez, aux choses vraies et aux choses essentielles. Nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas faits pour tout savoir. Et il est impossible de tout savoir. Il faut, comme le dit l'imitation de Jésus-Christ et comme le dit aussi les exercices Saint-Ignace, il faut que nous soyons morts, que nous soyons indifférents, l'indifférence ignatienne aux choses de la terre. Ne recherchons pas ce qui n'est pas nécessaire, même si elles sont permises. Ne nous encombrons pas de choses inutiles, ne nous alourdissons pas de choses futiles. Il faut que nous mortifions notre tendance à tout vouloir savoir, à tout vouloir voir, à tout vouloir connaître. Et il ne faut pas avoir peur d'être peut-être pris quelquefois pour les insensés. Vous n'avez pas regardé la télévision ? Non, mais alors vous ne savez rien. Qu'est-ce qu'il en sait ? Dans 3 jours, il a tout oublié. Puis il n'en a rien retiré. Voyez. Que de choses vaines et que de choses inutiles nous remplissent l'esprit, nous remplissent la vie, nos chaque jour. Voyez. Si nous faisions un petit retour sur nous-mêmes, eh bien, si vous réfléchissez un peu, vous verrez que toutes ces pensées, toutes ces informations vous ont préoccupé l'esprit pour un moment et que ça n'a pas porté de fruits, ça n'a servi à rien. Et vous avez perdu ce temps que vous auriez pu profiter pour connaître Dieu. Les moines, les religieuses, bien sûr, se retirent du monde d'une manière toute particulière pour vraiment s'approcher de Dieu. Mais l'essentiel de notre vie, n'est-ce pas de louer, d'honorer, de servir Dieu, et par ce moyen de sauver notre âme, c'est l'essentiel. Une chose de nécessaire, connaître Dieu, connaître la grandeur de Dieu pour l'aimer. Ensuite, nous connaître pour nous mépriser. Voilà, c'est l'essentiel. Le ciel, que ferons-nous au ciel ? Nous contemplerons Dieu, nous le louerons. Nous l'aimerons, nous le glorifierons, voilà. Toute notre éternité, nous ferons cela, et nous trouverons notre bonheur à faire cela. Eh bien, notre Seigneur nous prêche le royaume des cieux qui est déjà sur la terre. Nous commençons le ciel ici-bas, nous nous préparons à ce ciel. Nous sommes sur la terre justement pour déjà connaître Dieu, l'aimer, le servir. Nous commençons ce ciel sur la terre. Et si nous faisons vraiment cela, le bon Dieu nous donnera cette paix intérieure, cette joie intérieure que les autres, que les mondains ne peuvent pas connaître. Nous nous épanouirons. Regardez les saints. La vie merveilleuse des saints. Est-ce que les saints étaient tristes? De la joie profonde, non pas d'une joie superficielle et mondaine, mais d'une joie profonde, d'une joie durable. Même au travers des croix, même au travers des épreuves, ils avaient une paix, une joie intérieure. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit, explique ça, qu'un jour le bon Dieu lui a fait la grâce d'aimer la souffrance. Donc, vous voyez, jusqu'où le bon Dieu peut nous mener. Donc, veillons de ne pas nous laisser emporter par notre tendance à la curiosité. Il y a des choses qui sont inutiles, qui sont vaines. Saint Pierre d'Alcantara, qui était apparu un jour à Sainte Thérèse d'Avila, lui a dit « Ô heureuse mortification, ô heureuse pénitence que je me suis infligée et qui m'ont valu une telle récompense dans le ciel. » Et dit-on de Saint Pierre d'Alcantara, qui n'avait jamais levé les yeux sur personne, qui ne savait même pas les fenêtres qu'il y avait dans sa chapelle, où il allait tous les jours. Il mortifiait son regard pour ne pas laisser entrer des choses vaines, inutiles, mais pour rester plein de Dieu. Bien sûr, aux yeux du monde, c'est de la folie, mais c'est la folie de Dieu. Et c'est permis, ça. Le démon veut nous empêcher de connaître Dieu, veut nous empêcher d'atteindre la vérité. C'est son œuvre qui est le mal et qui est contre tout bien. Alors il va essayer
d'attirer notre curiosité. Certainement qu'il y aura des choses, il nous portera quelquefois l'esprit à des considérations sublimes, élevées, à des raisonnements magnifiques, extraordinaires, mais qui ne seront que du vent, que de la paille. Et il nous portera avec cela à l'orgueil. Voilà. On fera des raisonnements magnifiques, parfaits, des beaux syllogismes, alors on sera porté à l'orgueil. Voyez, c'est ainsi, mais sur des choses de peu de valeur, voyez, sur de la paille. Ces âmes sont trompées par les charmes qu'ils trouvent dans ces vains raisonnements et dans ces belles pensées. Elles sont parfois persuadées, ces âmes, de jouir de la présence de Dieu. Et elles oublient de purifier leur cœur. Elles oublient de s'appliquer à se connaître elles-mêmes et à mortifier leurs passions. Alors vous aurez des personnes d'une intelligence remarquable, d'une science prodigieuse, d'une... et qui ne seront pas vertueux pour 4 sous. À quoi cela a servi? À rien du tout. Ces âmes curieuses, ces esprits croyant tout savoir, elles sont entraînées dans le piège, dans les pièges de l'orgueil. Et se font une idole de leur intelligence. Moi, je sais tout. Elles viennent peu à peu, sans s'en apercevoir, à se persuader qu'ils n'ont besoin d'aucun conseil, qu'il n'y a que qui savent raisonner, qu'il n'y a que leur jugement qui est bon. Alors elles l'imposent aux autres, mais on n'écoute pas les autres. Il n'y a qu'en nous les bonnes pensées. Il n'y a que notre façon de voir qui est juste. Alors ils se mettent à critiquer. Celui-là a fait ça, celui-là a fait comme ça, c'est tout faux, etc. Il n'y a que moi qui sais. Voilà. Ils se font une idole de leur intelligence. Ils ont été pris par le piège du démon. Ils sont les seuls à penser juste. Ils ne se fient qu'à leur propre jugement. Eh bien, c'est là une maladie grave. Voyez. Parce que plus personne ne peut leur venir en aide. Puisque tous les autres sont inférieurs, ne peuvent plus rien lui apporter. C'est une maladie très grave, ils ne peuvent plus se guérir. L'orgueil de l'intelligence est plus dangereux que l'orgueil de la volonté. L'orgueil de la volonté est connu par l'intelligence et peut se guérir sans trop de difficultés, par la soumission par exemple au supérieur. Mais celui qui a la conviction que son raisonnement et que ses pensées sont préférables à ceux des autres, par qui? Et comment pourra-t-il être guéri? Comment se soumettre au jugement d'autrui quand on le trouve moins bon que le sien propre? Voilà, mes bien chers fidèles, ce qui arrive à celui qui ne mortifie pas sa curiosité. Il y a des choses donc qu'il n'est pas la peine de connaître, qui n'est pas nécessaire. Qu'est-ce que certaines connaissances par rapport à l'éternité? Est-ce que ce sont des choses qui nous approchent de Dieu ou qui nous éloignent de Dieu? Saint Nicolas de Flux disait une magnifique prière. Mon Seigneur et mon Dieu, ôtez de moi tout ce qui m'empêche d'aller à vous. Mon Seigneur et mon Dieu, donnez-moi tout ce qui me rapproche de vous. Mon Seigneur et mon Dieu, ôtez de moi tout ce qui m'empêche d'aller à vous. Voilà, eh bien on peut là-dedans aussi mettre cela. Ôtez de moi tout ce qui m'éloigne de vous, tout ce qui n'est pas nécessaire, tout ce qui ne m'apporte pas un peu de vous. Voilà. Donc ce deuxième ennemi de notre intelligence, qui est la curiosité. Demandons une grâce particulière. Voyez, de toujours bien user de nos facultés, de l'intelligence, de la volonté, de les user avec sagesse. Veillons à ces deux ennemis qui sont l'ignorance et la curiosité. Voilà. Saint Paul disait que toutes les sciences qu'il aurait pu connaître et qu'il connaissait même, il les considérait comme vaines à comparer à la science de Jésus-Christ et de Jésus-Christ crucifié. Je ne connais qu'une seule chose, c'est Jésus et Jésus crucifié. Voilà, c'est la science de Dieu, qui est la plus haute, la plus sublime des sciences. Eh bien, demandons à la très sainte Vierge. Elle qui n'a pas été, nous verrons dimanche, nous aurons la fête dimanche prochain, l'Immaculée Conception. Elle n'a pas eu le péché originel. Donc, son intelligence n'a pas été blessée par l'ignorance, par la curiosité. Sa volonté non plus, tout était intègre en elle. Tout était comme Dieu avait créé Adam et Ève. Donc, tout était bien ordonné, aucune blessure. Eh bien, demandons-lui de nous aider à lutter contre ces ennemis de notre intelligence, afin que nous puissions nous servir sagement de ces facultés que le bon Dieu nous a données, et que nous puissions toujours tendre à connaître cette vérité. Aimons à découvrir. Nous le disons dans la prière au Saint-Esprit, donnez-nous la grâce de connaître et d'aimer ce qui est bien. Demandons donc cela à la très sainte Vierge Marie et à tous ces saints qui nous ont précédés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais poursuivre cette série de conférences, cette série d'instructions, plutôt, sur la perfection chrétienne. Voilà. Sur la perfection à laquelle nous devons tendre. Et la dernière fois, nous avions vu, nous avons commencé à voir la troisième arme nécessaire pour lutter contre notre ennemi intérieur. Et cette troisième arme, eh bien, c'est le bon usage de nos facultés. Nous avions vu que nous avons deux facultés, l'intelligence et la volonté. L'intelligence qui a comme objet la vérité, eh bien, elle a deux ennemis qui sont l'ignorance qui enténèbre l'intelligence pour l'empêcher d'atteindre cette vérité et la curiosité qui remplit notre intelligence, notre mémoire de choses vaines et inutiles à ce point qu'elle noie notre intelligence et empêche justement notre intelligence d'accéder à la vérité. Voilà. Elle inquiète notre intelligence, attire vers des objets sans valeur et futiles. Voyez, voilà, ça c'est les conséquences, bien sûr, du péché originel qu'il nous faut corriger. Nous avons vu donc les remèdes à ces deux ennemis de notre intelligence. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons voir le bon usage de notre volonté, c'est la deuxième faculté de notre âme. Il ne suffit pas de bien user de notre intelligence. Il y a des intelligences brillantes, merveilleuses, à commencer par Satan. Lucifer était d'une intelligence extraordinaire et est toujours d'une intelligence extraordinaire. Malgré cela, il a commis la grosse bêtise, hein, qui lui coûte maintenant toute l'éternité de souffrance et de malheur. Donc ça ne suffit pas, l'intelligence, voyez. Il faut que la volonté aussi, que l'on use bien de notre volonté. Avant le péché originel, Dieu avait créé l'homme, Adam et Ève, dans un état, l'état de justice originelle, c'est-à-dire que tout était ordonné en eux. L'intelligence était soumise à Dieu, la volonté était soumise à l'intelligence, le concupiscible et l'irascible étaient soumis à la volonté et à l'intelligence. Tout était bien ordonné, chacun dans son domaine, mais tout était bien uni en harmonie. Depuis le péché originel, tout a été coupé. L'intelligence a de la peine à se soumettre à Dieu, elle se révolte contre Dieu, c'est d'ailleurs ce qu'Adam et Ève ont fait. La volonté se révolte contre l'intelligence, l'irascible et le concupiscible se révoltent contre la volonté et l'intelligence. Voilà. Alors, il y a le désordre en nous depuis le péché originel. Et notre travail va consister à remettre de l'ordre. Donc, la volonté doit être soumise à l'intelligence. L'intelligence indique, il connaît, son objet, c'est la vérité. Il découvre la vérité. La volonté doit tendre vers cette vérité qui est un bien. Voilà. Alors, elle est informée par l'intelligence. Cependant, voilà, depuis le péché originel, la volonté a ses désirs propres et qui sont souvent en désaccord avec l'intelligence et en désaccord avec le bien, avec la vérité. C'est un bien secondaire ou un bien qui peut tourner à notre malheur. Remarquez bien qu'il ne suffit pas de vouloir et de faire les choses que nous croyons les plus agréables à Dieu. Alors, nous devons de plus les vouloir et les faire sous l'impulsion de la grâce et dans la seule vue
dans aucune autre vue, mais dans la seule vue de plaire au Seigneur. Eh bien, c'est ici que nous aurons à lutter contre notre nature. En général, notre intelligence arrive encore pas trop mal à saisir la vérité, aidée d'ouvrages ou de l'entourage, mais c'est de passer à la pratique. C'est-à-dire que la volonté doit suivre, et c'est surtout là que le problème se situe. Notre nature est toujours occupée d'elle-même. Elle ne songe en toute chose qu'à ses commodités et à sa satisfaction propre. Lorsqu'une œuvre nous est proposée, notre volonté a cette mauvaise tendance à la désirer pour le plaisir et le contentement qu'elle trouve à vouloir même ce que Dieu veut. Quelquefois, il arrivera, on dira, bien sûr, nous voulons la volonté de Dieu, mais au fond, si ça nous plaît, on la veut, la volonté du bon Dieu, mais on regarde d'abord si ça nous plaît. Si un jour ça ne nous plaît pas, on ne la veut pas. Alors il y a toujours ce désordre en nous qui ne cherche pas uniquement ou la seule vue de la volonté de Dieu, le bon plaisir de Dieu, mais d'abord nous cherchons notre bon plaisir à nous, notre satisfaction, et puis si ça correspond avec la volonté de Dieu, tant mieux. Vous voyez ? Alors là, il y a une correction à apporter. L'amour propre trouve à se glisser jusque dans les désirs que nous avons de nous unir à Dieu. Bien sûr, nous avons des grands désirs des fois de nous unir à Dieu, mais ce que nous recherchons, c'est toujours une insatisfaction personnelle. Notre volonté prend souvent plus garde à notre intérêt et à notre satisfaction qu'à la volonté même de Dieu. Et nous oublions ce que Dieu demande et exige. Oui, Dieu demande et exige d'être aimé, désiré et servi uniquement en vue de sa gloire. En somme, notre volonté cherchera son intérêt et son contentement d'abord, même en accomplissant la volonté de Dieu. Mais elle recherchera d'abord cela. Alors pour y remédier, il nous faut prendre l'habitude, dans toutes les œuvres bonnes que nous allons entreprendre, d'élever d'abord notre esprit à Dieu, afin de nous assurer qu'il veut que nous fassions ces bonnes œuvres et que nous-mêmes, nous ne la voulions que pour nous conformer à sa volonté, que pour être agréable à Dieu. Se demander, est-ce d'abord pour Dieu que je le fais, ou est-ce qu'il n'y a pas une recherche personnelle avant tout? Il faudrait que nous ayons cette habitude, que nous acquérions cette habitude-là. Mais il faut commencer, petit à petit, demander à l'ange gardien de nous rappeler, puis petit à petit, avec la répétition de cet acte, ça se grave en nous, et pour finir, ce sera une habitude, on le fera facilement. Voilà. Et ainsi, nous nous purifions. Notre volonté ainsi attirée par celle de Dieu se pliera facilement à vouloir ce que Dieu veut, uniquement en vue de son bon plaisir et de sa gloire. Il en est de même pour les choses que Dieu ne veut pas. Il ne faut les rejeter qu'après avoir arrêté l'œil de notre intelligence sur cette volonté de Dieu qui veut que nous les rejetions en vue de lui plaire. Quelquefois, il y a des choses qui nous seront désagréables, alors on aura tendance à vouloir les rejeter, mais il faudrait d'abord demander si c'est vraiment ce que le bon Dieu veut, ou bien si c'est parce que ça nous gêne. Il faut d'abord faut faire abstraction de notre propre désir, de notre propre intention, de notre propre volonté, mais voir d'abord si c'est pour le bon plaisir du bon Dieu. À ce moment-là, très bien. Et il ne faut pas oublier que notre nature a 1000 artifices pour nous induire en erreur. C'est très subtil quelquefois. Notre volonté, en se cherchant elle-même, elle nous persuade que nous agissons dans le but de plaire au Seigneur, tandis que nous avons une autre vue, ou nous avons une autre chose en vue. Alors pour remédier à cela, eh bien, il nous faut avoir la pureté de cœur.
La pureté de cœur qui va consister à nous dépouiller du vieil homme. Ce vieil homme, avec ses mauvaises tendances, avec ses conséquences du péché originel, il faut nous dépouiller. Il y avait un moine à qui l'on avait posé quelques questions, qui avait dit un jour, « Lorsque je suis entré au monastère, nous étions deux. Mais j'ai tué l'autre, et maintenant je suis seul. » Ça voulait dire, lorsque nous sommes entrés, il y avait les deux natures en nous. La nature déchue, enfin, le vieil homme et l'homme nouveau. J'ai tué le vieil homme et il ne reste plus que l'homme nouveau. Voilà, eh bien, il y a toujours en nous ça. C'est de lutte. L'homme, le vieil homme, eh bien, c'est ça. Il nous faut nous dépouiller de ce vieil homme avec ses mauvaises tendances et nous revêtir de l'homme nouveau, vivre selon l'homme régénéré, l'homme vertueux, l'homme tout tendu vers Dieu. Dans nos actions, veillons à ce qu'il n'y ait aucun désir humain, mais dans le seul but de plaire à Dieu et d'accomplir sa sainte volonté. Il y a des chrétiens qui commencent les œuvres dans le seul but de plaire à Dieu, mais peu à peu, et même à leur insu, s'ils manquent de vigilance, ils se laissent aller au sentiment de la vaine gloire, si bien qu'oubliant la volonté de Dieu, ils s'en détournent pour s'attacher au plaisir qu'ils trouvent en son œuvre et à l'utilité ou à l'honneur qu'il peut en retirer. Voilà. Donc il faut toujours veiller. Nous pouvons des fois bien partir, mais mal finir. Si Dieu lui-même lui envoie une infirmité, ou un contretemps, ou un obstacle, ou toutes sortes, tout autre empêchement, quelques difficultés, de continuer son œuvre, alors il tombe dans le trouble et l'inquiétude. Il se plaint tantôt de celui-ci, de celui-là, parce que ça n'a pas été, en fait, comme il voulait lui. Et des fois, il va même jusqu'à se plaindre de Dieu lui-même. Voilà s'il se laisse aller. Eh bien, c'est là une preuve évidente que son intention n'était pas dirigée uniquement vers Dieu, mais qu'il venait d'une racine gâtée et d'un fond mauvais. Celui qui, sous l'impulsion de la grâce, agit uniquement pour plaire à Dieu, n'a de préférence pour rien. Il ne veut que ce que Dieu veut, de la manière et au temps qu'il lui plaît. Que ses œuvres réussissent ou que ses œuvres échouent, cela ne le trouble pas. Parce qu'en fait, ce qu'il a recherché, il l'a obtenu, c'est-à-dire plaire à Dieu. Faire pour le bon plaisir de Dieu. Que les hommes le louent ou lui reprochent, qu'ils le félicitent ou le blâment, cela ne le touche pas. Parce qu'il n'a pas recherché à plaire aux hommes, mais il a recherché à plaire à Dieu. Bien sûr, il tiendra compte des blâmes qu'on lui fera, des reproches qu'on lui fera, pour voir si éventuellement il aurait pu faire mieux, s'il pouvait se corriger. Mais il ne se troublera pas. Car il a eu l'intention pure, la pureté de cœur, de vouloir faire pour en seule vue de la gloire de Dieu et de sa volonté, et d'accomplir sa volonté. L'action la plus humble, la plus basse, la plus petite, faite en vue de plaire à Dieu seul et de procurer sa gloire, emporte infiniment sur les œuvres les plus importantes faites dans un autre but. Plus notre intelligence s'attachera à considérer les perfections infinies de Dieu, plus notre volonté tendra à faire plaisir à Dieu et à accomplir sa volonté, et bien vite, nous acquérerons l'habitude de rapporter toutes nos actions à Dieu. Et oui, si nous connaissions vraiment Dieu, la sagesse de Dieu, les perfections de Dieu, nous n'aurons qu'un désir, c'est de concourir à sa volonté, de concourir à son plan, de faire ce qu'il veut, de tout faire pour que sa volonté se réalise sur la terre comme au ciel. Voyez. Mais nous sommes encore trop petits, nous sommes encore un peu trop dans notre coquille et nous ne voyons que nos intérêts personnels et nous avons la peine à découvrir, à rentrer dans le mystère de Dieu, à découvrir les grandeurs de Dieu et à coopérer à son plan. Alors il nous faut demander cette grâce. Il nous faut la demander instamment au Seigneur et plus nous exercer. Nous avons bien les occasions dans notre journée de nous analyser. Voilà, je vais faire ceci. Pour quelle intention je vais faire cela? Ah, mais c'est de l'apostolat, ça. C'est certainement pour la plus grande gloire de Dieu. Oui, mais est-ce que je ne recherche pas quelque chose d'abord, par exemple, à me montrer? Ah oui, c'est moi qui. Ah. Alors, voyez, le démon est terrible. Notre volonté est blessée est terrible aussi. Il faut voir l'intention. Voilà. Je veux rendre service. Bon, pour quelle intention je veux rendre service? Est-ce que c'est pour en retirer une certaine affection? Est-ce que c'est pour en retirer une certaine remerciement? Est-ce que c'est pour recevoir des remerciements? Oui, c'est des fois très subtil, il faut bien s'analyser. Mais il faut s'y exercer et on y arrive avec la grâce du bon Dieu. Voilà. Et bien que nous soyons détachés, que ça nous réussisse ou que ça nous échoue, du moment que nous avons fait vraiment pour plaire à Dieu avec en usant bien de notre intelligence, en étant prudent quand même, voyez, eh bien, cela doit nous suffire. Que nous ayons fait pour la plus grande gloire de Dieu, pour vraiment son bon plaisir. C'est ce qui doit nous intéresser en premier point. Alors demandons à la très sainte Vierge Marie cette grâce de pouvoir toujours bien user de notre volonté, de cette faculté de la volonté, afin que nous soyons toujours agréables à Dieu. Et puis aussi, faisons tout ce que nous pouvons pour découvrir la grandeur, la sagesse, la perfection de Dieu. Oui, si nous découvrions ça, eh bien, notre vie serait bien changée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Les pères de l'Église voient dans ce malheureux aveugle de l'Évangile l'image de l'âme plongée dans l'aveuglement spirituel. Il vous est arrivé déjà de rencontrer des aveugles et on ne peut pas ne pas être touché d'une certaine pitié, de compassion envers ces personnes qui leur manquent la faculté de voir. Mais dans l'ordre surnaturel, on est bien moins touché de cet aveuglement. C'est parce qu'on ne considère pas le prix d'une âme, ni le triste état où se trouve une âme frappée de cet aveuglement spirituel, de cette âme qui ne jouit plus de la lumière divine. Ils ont des yeux et ils ne voient pas. Et hélas, qu'ils sont nombreux, ces aveugles de l'esprit. Qu'est-ce donc au juste que l'aveuglement spirituel? Eh bien, c'est une certaine insensibilité ou lourdeur d'esprit qui, interceptant la lumière de la grâce ou en diminuant la quantité nécessaire à notre âme, nous empêche de voir, de comprendre et de goûter les choses divines. Cet aveuglement spirituel enlève à l'homme le sens moral et paralyse la foi. La foi est considérée comme l'œil de l'âme. Ce mal touche l'intelligence. Et il est accompagné, bien sûr, de l'endurcissement du cœur, c'est-à-dire l'endurcissement de la volonté, laquelle ne se laisse plus mouvoir et incliner au bien, ni par la beauté de la vertu, ni par l'attrait de la récompense, ni même par la crainte du châtiment. Par exemple, les hérétiques, les athées de mauvaise foi qui refusent de s'instruire, qui refusent la lumière, ils pêchent, et même gravement. Cet aveuglement spirituel existe aussi dans les païens qui, ayant la facilité de connaître et d'embrasser la vraie foi, ferment obstinément les yeux à la divine lumière. Cet aveuglement empêche l'homme de faire valoir les talents de Dieu. Autre cause de cet aveuglement, eh bien, ce sont les passions et les vices qui endurcissent l'esprit et dégradent l'âme. L'orgueil. L'orgueil d'un Nabucodonosor. La colère, la haine,
l'envie, la jalousie. Voyez par exemple Caïn qui a tué son frère Abel. Voyez les frères de Joseph. Par jalousie, ils l'ont mis dans le puits, l'ont vendu. Voyez le roi Saül, Hérode. La sensualité aussi est une cause de cet obscurcissement de l'esprit. La sensualité est la corruption des cœurs. Voyez Salomon qui avait reçu cette sagesse extraordinaire. Et bien dans la fin de sa vie, voilà, il s'est corrompu. Voyez les deux vieillards de Babylone aussi, les deux juges. Par la concupiscence, par la sensualité, ils sont corrompus, ils sont aveuglés. Aussi comme cause, il y a l'avarice, l'intérêt propre, qui persuade qu'on peut se permettre des choses mauvaises, injustes, des vols, des médisances, des calomnies. Et il y a aussi l'oisiveté, conduit et qui enseigne le mal. Autre cause aussi de l'aveuglement spirituel, eh bien c'est le péché. Le péché est à la fois la cause et la peine de l'aveuglement spirituel. En ce sens que Dieu, pour punir le péché, retire à l'homme certaines lumières et certaines grâces spéciales qu'il lui fallait pour marcher dans le chemin droit. Comme cause aussi de l'aveuglement spirituel, il y a l'éducation mauvaise. Elle produit un aveuglement dans l'esprit des enfants. Ils en sont responsables, bien sûr, en partie les parents, en partie les maîtres ou les supérieurs qui ont été infidèles à leurs devoirs. Attention, aujourd'hui, il y a un abandon dans l'éducation des enfants. Mais les parents n'ont pas le droit, tant que les enfants vivent sous leur toit, ils n'ont pas le droit d'accepter ce qui est contraire au commandement du bon Dieu. Quelquefois, l'on entend dire, c'est effrayant, que les parents permettent que les enfants amènent leurs amis ou leurs amies dans la maison et qu'ils vivent ensemble. C'est un crime inadmissible. Autre cause de cet aveuglement, c'est les mauvaises compagnies, les mauvaises lectures et la télévision, bien sûr. Et la parole de Dieu est très formelle. Les mauvaises paroles corrompent les bonnes mœurs. Un mauvais arbre ne peut produire de bons fruits. Craignons, mes bien chers fidèles, cet aveuglement spirituel, car quelqu'un qui est aveugle ne peut plus se diriger. Au premier obstacle, il tombe dans le trou. Demandons-le à la très sainte Vierge Marie aussi. En ce jour, elle que l'on invoque sous ce titre gardienne de la foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Saint Jean-Baptiste remplit sa mission de précurseur en montrant le Sauveur aux Juifs et en les préparant à le recevoir. Et comment les prépare-t-il à le recevoir? Eh bien, en leur prêchant la pénitence. Faites pénitence, car le royaume de Dieu est proche. Eh bien, l'Église nous rappelle cette prédication de Jean-Baptiste pour nous stimuler aussi à la pénitence. Demain, ce sera la vigile de Noël. La vigile de Noël est un jour de pénitence. Eh bien, faites quelques pénitences. Même jeûnez si vous pouvez. C'est tout à votre avantage. Voyez, si l'Église nous fait jeûner les veilles de fête, c'est justement pour tirer plus de profit. Voyez, pour tirer d'abondantes grâces. Grâces qui sont accordées à l'occasion de cette fête. Eh bien, je voudrais aujourd'hui vous parler un peu sur la pénitence. Est-ce que c'est mieux de faire pénitence que de ne pas faire pénitence? C'est pas là la question. La pénitence est obligatoire. Oui. C'est une nécessité. C'est pas mieux. Il faut le faire. Sous peine de ne pas pouvoir aller au ciel. Notre Seigneur nous en a donné l'exemple tout au long de sa vie. Par sa vie, en pensant. Imaginez que notre Seigneur a pu choisir sa vie. Il aurait pu choisir une autre vie, mais il a choisi. Nous ne pouvons pas choisir notre vie, nous devons la subir, nous devons suivre ce qui se présente. Lui, il a pu choisir. Qu'a-t-il choisi? Eh bien, cette vie qui nous a donc, dont il nous a donné l'exemple, vie de renoncement, vie de pénitence. De la crèche au calvaire, ça a été le renoncement. Donc, il nous en donne l'exemple et il nous l'a prêché. Il est venu pour sauver nos âmes, pour expier nos péchés et pour guérir la plaie de nos âmes. Qui dira combien il s'est abaissé, combien il a souffert de la crèche au calvaire, vie de pauvreté, vie de souffrance, vie d'ignominie. Et nous qui voulons être ses disciples, est-ce que nous voulons être au-dessus de notre maître, lui, le maître innocent, et nous, les disciples qui ne sommes pas innocents. Celui qui veut me suivre, qu'il se renonce. C'est ça. Oui. Et aussi, nous dit-il, si vous ne faites pénitence, vous périrez tous. Le Concile de Trente nous dit que la vie entière du chrétien doit être une pénitence continuelle. Et d'ailleurs, eh bien, tous ceux qui ont imité notre Seigneur, tous les saints qui nous ont précédés, bien aussi, ils ont mené une vie de pénitence, une vie austère, une vie de renoncement. Ils l'ont aussi enseigné par leur vie, par leurs exemples. Saint Paul nous dit, « Je châtie mon corps et je le réduis en servitude, afin qu'après avoir prêché, je ne sois moi un réprouvé. » Le grand Saint Paul. Saint Augustin nous dit, « Voulez-vous ne point être puni de Dieu, eh bien, punissez-vous vous-même, et ainsi, vous ne serez pas puni de Dieu. » Ou encore, il dit, « Vous pouvez choisir ou la pénitence ou le feu éternel. » Eh bien, il n'y a pas d'hésitation. Saint Chrysostome nous dit, « Refusez de faire pénitence, fait plus d'injures à Dieu que le péché lui-même. » Et Saint Jérôme, « L'impénitence est le seul crime que Dieu ne pardonnera pas. » David, le roi David, bien qu'il fût assuré d'être pardonné, ne cessait de gémir et de répéter, « Je connais mon iniquité et mon péché est toujours devant moi. » Saint Pierre d'Alcantara, il faisait pénitence continuellement. Saint Louis de Gonzague, Sainte Rose de Lima, etc. Et d'ailleurs, l'Église, tout au long de l'année, nous invite à des périodes particulières pour la pénitence. Déjà les vigiles des fêtes, les quatre temps, le temps de l'Avent, le temps du carême, bien sûr. Et souvent, elle nous rappelle la pénitence. Il y a deux voies pour aller au ciel. Ou bien l'innocence conservée ou l'innocence retrouvée par la pénitence. Qu'est-ce que donc la pénitence ? Bon, on veut bien faire pénitence, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, tout d'abord, ce qui est nécessaire, c'est que la pénitence vienne d'un regret sincère, d'un véritable repentir d'avoir offensé Dieu. Voilà. Ce n'est pas faire pénitence pour se faire voir des autres. Ça, c'est zéro. C'est les pharisiens. Non, il faut vraiment être mu par ce regret d'avoir offensé Dieu. Considérons donc souvent la gravité du péché. On ne peut vraiment être pénitent si on reste attaché au péché, bien entendu. C'est pourquoi il faut renoncer franchement à tout péché, sans exception, et surtout à tel ou tel péché d'habitude. Les jeûnes aussi, faites quelquefois des jeûnes. Oh, ça ne tue pas les jeûnes en général, on ne risque pas d'en faire trop, au contraire. Eh bien, de temps en temps, imposez-vous quelques jeûnes. Le jeûne consiste à prendre un repas complet par jour. Ce n'est pas difficile, ça on peut le faire quelquefois. Par exemple, demain, jeûnez, voyez, pour vous préparer à cette fête. Aussi, consoler le cœur du bon Dieu que nous avons offensé,
par cette vertu, par cette pénitence, ces pénitences que nous pourrons faire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. C'est chaque année une joie renouvelée que de célébrer cette si belle fête, cette si sainte fête de Noël. Dites-nous, bergers, qu'avez-vous vu? Les bergers réveillés pendant la nuit par un ange sont partis, ont cru à la parole de l'ange et sont allés à la crèche. Quelle surprise pour ces bergers de voir la naissance de ce Messie que les anges leur ont annoncé dans une crèche sur un peu de paille. Quoi ? C'est là le lieu où a voulu naître le Messie, où a voulu naître cet enfant. C'est un grand mystère que ce mystère de l'incarnation, que ce mystère de la crèche. Oh, nous le savons, nous l'avons appris depuis tout petit, sur les genoux de nos mamans, au catéchisme, Noël, c'est la naissance de Jésus. Mais il ne suffit pas de savoir, est-ce que nous arrivons à réaliser la profondeur de ce mystère? Bien sûr, nous sommes limités, nous n'arriverons jamais à percer tout le mystère, mais nous pouvons avoir une connaissance plus approfondie d'un mystère. Est-ce que nous arrivons à réaliser que cet enfant dans cette crèche n'est autre que notre Dieu? Quoi? Notre Dieu? Cet être qui existait avant même la création du monde, avant la création de l'univers. Ce Dieu tout-puissant qui a tout fait d'une seule pensée. Ce Dieu éternel, cela nous dépasse. On ne peut pas comprendre ce que c'est que l'éternité. Eh bien quoi? Cet enfant, c'est ce Dieu éternel. Cette sagesse incréée, c'est le Verbe de Dieu, celui par qui tout a été fait. Il est la lumière du monde, comme nous le dit Saint Jean. Ce monde qui était plongé dans les ténèbres à cause du péché, bien sûr, le péché nous plonge dans les ténèbres, obscurcit notre intelligence et les ténèbres de l'âme. Eh bien, c'est cette lumière qui vient éclairer nos âmes, nous montrer le chemin. Oh, quelle merveille, mes bien chers fidèles, que cette fête de Noël, où l'on a là le génie de Dieu. On est bien souvent émerveillé lorsque l'on rencontre de grands savants ou des personnes riches quant à leur invention, quant à leur génie. Mais qu'est-ce que cela à côté du génie de Dieu? Si une petite pensée de Dieu a créé toutes ces merveilles, tout ce monde, cet univers, toutes ces constellations, tout cet ordre dans le firmament. Qu'est-ce que donc doit être le génie de Dieu? Oui, Dieu a déployé son génie pour nous racheter. Eh bien, c'est là, dans la crèche, que commence ce plan rédempteur. Quelles devaient être les pensées de la très sainte Vierge Marie, de Saint Joseph, à la vue de ce petit enfant qui ne se distinguait guère des autres? Il fallait quelques gouttes de lait pour le nourrir. Il fallait l'envelopper de linge. Il pleurait. Il souffrait du froid. Il fallait le réchauffer. Quoi? Cet enfant, c'est notre Dieu.
Cela dépasse tout ce que notre imagination peut concevoir. Jamais aucune peuplade n'a pu imaginer un Dieu pareil. Les dieux des païens étaient des dieux terribles, des dieux dont on osait difficilement s'approcher ou avec tremblement. Eh bien, ce petit enfant, c'est notre Dieu. Bien sûr, notre Dieu est terrible. Les anges et les démons tremblent devant Dieu. Tout lui est soumis. Mais il a voulu se présenter à nous sous cette humble figure d'un petit enfant. Il a voulu cela. Il n'a pas subi les circonstances. Il a voulu cela. Nous ne pouvons pas choisir notre vie. Nous devons prendre comme elle vient. Mais lui a prévu tout d'avant, sa sagesse infinie. Il a choisi de vouloir naître là, dans une grotte, rejeté de tout le monde, pour nous donner l'image de l'attitude du monde vis-à-vis du Rédempteur, comme encore nous le décrit saint Jean. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Terrible. Imaginez-vous, rentrer dans votre famille et vous être reçu, ou même pas reçu, considéré comme un étranger et rejeté. Il est venu chez ses créatures pour leur montrer son amour, pour leur montrer combien il les aimait, et ses créatures ne l'ont pas reçu. Mystère d'iniquité. Que de leçons, mes bien chers fidèles, nous pouvons tirer de cette crèche. Eh bien, aujourd'hui, si Jésus revenait, semble bien que ce serait pareil, qu'il ne serait pas reçu pour la plupart des chrétiens. Jésus veut venir dans chacune de nos âmes, mais nos âmes sont si souvent encombrées, remplies de distractions, remplies d'autres choses. Il n'y a pas de place pour Jésus. Il frappe à nos cœurs. C'est toujours la même chose. Est-ce que nous ouvrons nos âmes à la venue de Jésus? Peut-être même nous n'y pensons même pas. Nous sommes tellement préoccupés par choses et autres que nous ne nous rendons même plus compte qu'il frappe à notre porte. Il y a tellement de bruit dans nos âmes qu'on n'entend plus les appels du Sauveur. Donc veillons de ne pas être sourds à ses appels. Soyons prêts. Dans quelques instants, Jésus va naître sur l'autel, réellement, comme il est né il y a bientôt 2000 ans. À la première consécration, à la consécration de l'hostie, Jésus descendra dans les mains du prêtre et il sera là parmi nous. Nous avons bien plus de chance que les bergers, car cette naissance se renouvelle tous les jours. Et tous les jours, nous pouvons nous y rendre. Mais ce que nous devons demander aux bergers, eh bien, c'est cette simplicité. Ils ont cru à la parole de l'ange. Ils sont allés immédiatement, comme dit l'évangéliste Saint-Luc, en hâte, auprès de ce Messie annoncé. Arrivant dans cette grotte, quand il fait, bien que leurs yeux humains n'ont vu qu'un petit enfant enveloppé de l'ange, ils se sont prosternés, ils l'ont adoré. Encore là, un mystère. Ce ne sont que les simples, que les petites gens qui se sont rendus à la crèche. Quelques jours plus tard, bien sûr, seront venus les rois mages, mais aussi, ils se feront remarquer par leur simplicité. Oh, quelle merveille, mes bien chers fidèles! Pénétrons donc ce mystère de Noël. Essayons d'imiter Marie. L'évangile de la messe de l'aurore nous dit que la Sainte Vierge conservait tout cela dans son cœur et les méditait. Oui, si nous ne pouvons pas pénétrer ces mystères, c'est parce que nous ne le méditons pas assez. Il faudrait que nous
fassions comme les enfants. Lorsqu'ils mangent un bonbon, ils le sucent, ils le tournent, ils le retournent pour en extraire le parfum, pour en extraire le sucre. Eh bien, nous devrions faire pareil avec ces vérités. Il faudrait que nous les tournions et les retournions pour en déguster, pour en tirer le fruit. Si le bon Dieu vous faisait la grâce d'apprécier ce mystère de Noël, eh bien vous verrez que tout le reste, que tout le faste, que toutes ces festivités ne vous intéresseront plus. Vous laisseront vide. Au contraire, vous aurez trouvé telle joie à contempler ce mystère de Noël que tout le reste vous sera indifférent. Bien demander cette grâce. Ne vous laissez pas trop distraire. Malheureusement, ces festivités nous distraient trop facilement. Ne vous laissez pas donc distraire, pénétrer dans ce mystère de Noël. Retournez ces vérités, comme la Sainte Vierge. Pouvait-il montrer plus d'amour pour nous qu'en se présentant à nous comme un petit enfant? Mais ne l'oublions pas, c'est ce Dieu terrible. Si nous ne l'accueillons maintenant, si nous ne faisons pas de cas de cet humble enfant de Noël, eh bien, il ne nous accueillera pas dans son paradis. Ne nous faisons pas d'illusions, Dieu n'a pas besoin de nous. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a entrepris, c'est uniquement pour nous, par pur amour pour nous. Il a fait ce qu'il n'a pas fait pour les anges déchus, ou que l'on pourrait considérer longtemps. Eh bien, faites ceci. Pendant ce temps de Noël, gardez les crèches jusqu'au 1er février, jusqu'à la veille de la purification, et allez tous les jours prier. Oh, je vous conseille, si vous pouviez, vous en retirer de grands fruits, allez tous les jours 10 minutes, regardez la crèche sans rien dire. Même pas dire des « Je vous salue Marie ». Faites le silence intérieur et contemplez. Dans les crèches de Provence, ces admirables crèches où l'on met tant de personnages qui viennent à la crèche, tant des fermières, des meunières, etc. Et parmi ces personnages, il y en a un qui n'apporte rien. Tout le monde apporte des œufs, du fromage, du beurre, du pain, du lait. Mais un n'apporte rien. Il vient et on l'appelle l'ouravi. Il vient admirer. Il vient contempler. Il reste debout en extase de cette scène. Eh bien, soyons nous cet ouravi. Allons tous les jours. Et vous verrez que l'enfant Jésus vous parlera. La manière de parler de Jésus, eh bien, il vous donnera des pensées, des bonnes et de saintes pensées, des idées, des lumières. Il vous fera découvrir ce mystère. Il vous le fera approfondir. Eh bien, faites cela et vous verrez. Vous en retirerez des fruits. Il y aura bien des jours où vous serez sec, comme un morceau de bois. Ça ne fait rien. Restez-y. Le bon Dieu, peut-être qu'il attendra cela pour voir l'effort que vous faites afin de vous donner la grâce. Alors, persévérez et vous verrez les fruits que vous en retirerez. Les plus belles joies que notre âme peut recevoir. Les joies spirituelles, les joies surnaturelles, ce génie de Dieu. Découvrez ce génie de Dieu dans le mystère de la crèche de Noël. Eh bien, demandons à la très sainte Vierge Marie, demandons aussi à Saint Joseph, demandons aussi aux bergers la simplicité de leurs âmes. Dieu cache les belles vérités aux grands et aux sages de ce monde, mais il les découvre aux humbles et aux petits. Soyons donc ces humbles et ces petits pour accueillir ce roi du ciel et de la terre, celui qui nous a créés, mais celui qui nous aime. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.